Quotidien 5e édition avec Francine Forget et Yvan Deslauriers.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs. C'est Mathieu qui insiste pour dire c'est au quotidien 5e édition avec Francine Forget, Yvan Deslauriers et Mathieu Tessier.
Oui, mais j'ai dit ça en dehors du micro.
Je le sais, mais tout ce qui se passe en dehors du micro est susceptible d'arriver dans le micro.
Dans le micro.
Alors, nous sommes vendredi 19 mai, pour ceux qui le croiraient, pas. Après ce qu'on a eu cette semaine, on a eu du gel au sol.
C'est le mois de mai. Le mois de mai, on oublie, il y a plusieurs années où on a eu même une tempête de neige.
Vraiment, vous vous souvenez de ça?
Ah, certainement, parce que moi, j'étais petite et j'avais eu un anniversaire chez une amie. On soulignait son anniversaire. Je suis partie avec mes beaux petits souliers neufs et on a dû venir me chercher en voiture parce qu'il y avait trop de neige quand...
Puis on était à peu près à quelle date dans le mois de mai?
C'était au début du mois de mai, à peu près la même semaine que celle qu'on vient de passer.
Celle qu'on est aujourd'hui.
Oui.
OK. Et je vais vous laisser beaucoup le micro, Francine, parce que vous ne serez pas là la semaine prochaine.
Oui, puis notre temps est compté, fait que par mois, on a pas de minutes chacun, alors donc, il faut que j'en prenne plus cette semaine.
Oui, okay. C'est comme les quotas de musique francophone, c'est la même chose. On note tout.
Bon, moi, je suis d'accord avec ça, j'ai pas de problème, pas du tout, pas du tout.
Et on, on va être surveillés par... la firme Mathieu Tessier et compagnie qui va s'assurer qu'il y ait un bon partage du micro entre nous deux. N'est-ce pas, Mathieu?
Mais là, ce que vous venez de dire, ça contredit ce que vous vous aviez dit avant.
Non, un partage équitable.
Équitable, OK.
Qui tienne compte du fait que je vais être seul au micro la semaine prochaine. Mais avant d'arriver là, oui, Mathieu, vous étiez censé vouloir dire quelque chose?
Non, rien du tout. Je laisse la place à Francine.
Oui, on laisse tous la place à Francine. Alors, Francine, qu'est-ce qui a retenu votre attention cette semaine?
J'ai le goût de vous répondre par un grand silence, mais je ne le ferai point.
Il arrive toujours quelque chose dans votre vie.
Qui a retenu l'attention, mon attention
c'est
cette semaine?
C'est votre déménagement.
Non. Je ne parle jamais de mes affaires personnelles en ondes. Le projet Riopel.
Oui.
La production d'Ex Machina, mise en scène par Robert Lepage, qui, je le rappelle aux auditeurs, dure 4 heures.
C'est long, ça, oui.
Avec deux entractes, donc c'est 4h30.
Puis vous avez eu une entracte de plus?
Il y a eu une entracte de plus parce qu'il y a quelqu'un qui a eu un malaise pendant la présentation. Et bien, c'est sûr qu'on a dû attendre. On a dû attendre que les services ambulanciers arrivent et pour reprendre et avoir la pause. Alors, ça nous a retardé d'une quinzaine de minutes.
Est-ce que, en sortant de là à la fin, est-ce que vous avez senti qu'il y avait une continuité dans ce spectacle-là malgré l'interruption?
Oui, de toute façon, c'est fait pour qu'il y ait des interruptions. C'est beaucoup, beaucoup de tableaux. D'ailleurs, c'est à la fois, je dirais, c'est ce qui nous attire, mais en même temps, ça peut être dérangeant si on n'est pas habitué à Robert Lepage. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de changements scéniques. Ça s'explique parce qu'évidemment, on part de Riopel tout jeune et on va jusqu'à sa mort. Alors, il y en a passé, hein, des épreuves, il y en a vécu.
Il a passé beaucoup de choses,
des
oui.
événements, que ça soit ici, que ça soit à New York, que ça soit à Paris, etc. Alors, il s'est promené beaucoup, mais je dois vous dire que c'est un spectacle à voir. C'est un spectacle à voir parce qu'il y a un aspect pédagogique extrêmement intéressant, c'est-à-dire que ça nous fait découvrir quelqu'un qui n'est pas très au fait de cette période, de cette effervescence artistique qui va se retrouver. Bon, même si parfois il y a des références peut-être qu'on connaît moins, mais il y en a qu'on connaît bien et quand on les connaît moins, bien, on nous les fait découvrir ou encore, bon, un exemple qui est le refus global. Bon, c'est sûr qu'on dit tout le monde connaît ça, mais en fait, on connaît le refus global. On sait que c'est arrivé en 1948 et on connaît quelques noms de signataires, mais le comédien Luc Picard récite le refus global. Alors là, on comprend mieux cette espèce de contestation qui avait amené à la création de ce refus global, et ça le situe bien dans le contexte, puisque c'était une réponse, d'une certaine manière, à ce qui avait été fait aussi en France avec André Breton. C'est vraiment très intéressant à cet égard-là, et je terminerai en vous disant qu'évidemment, les performances d'acteurs sont époustouflantes, et je retiens particulièrement, Anne, j'ai un blanc, Anne-Marie Cadieux, qui est vraiment Joan Mitchell. C'est incroyable. La peintre qui a partagé la vie de Riopelle pendant de nombreuses années. Alors voilà, quand ça reviendra, peut-être à Montréal, parce que ça va poursuivre son chemin vers Québec quelques semaines.
Mm-hmm. De mon côté, j'ai eu ma première participation comme animateur au programme Cycliste averti. Ça s'est passé lundi dans une école de Ville d'Anjou. Et ça faisait pas si chaud que ça, lundi.
Non, c'est ça. On était en plein dans le retour à l'hiver.
À tout le moins à l'automne fort, mettons. Et nous, les guides, les animateurs, on le sait, fait qu'on a plusieurs couches, mais les enfants, pas tant. Alors, il faut essayer d'être relativement actif tout en leur faisant faire le circuit qu'on a prévu avec des virages à gauche, à droite. On leur fait réaliser qu'une voiture, ça peut faire des dégâts, etc. Beaucoup de plaisir. Les enfants aiment beaucoup. Évidemment, ils ne sont pas dans leur classe, fait que déjà, ça fait quelque chose de différent. Mais quand même, pas mal attentif. On voit un beau progrès entre le début de la session puis la fin de la session. Donc, il y avait ça. Et hier, j'ai appris que... Puis c'est un de vos favoris, Raphaël Nadal, qui...
C'est mon favori.
OK. Donc, avec un M majuscule.
Avec un M majuscule.
Donc, il ne participera pas à Roland-Garros, à tout le moins, peut-être à aucun des tournois de la saison. Puis pour l'année prochaine, il y a des gros points d'interrogation.
Mais il a parlé d'une tournée d'adieu.
Oui.
En 2024-25.
Si son corps le permet.
Oui.
J'en dis pas plus. On a, parce qu'il faut que je vous laisse le micro, hein, parce que...
Moi, je trouve que vous parlez pas mal pour une émission où vous n'êtes pas supposé de parler.
D'accord.
Donc, aujourd'hui...
De quoi aura l'air notre émission, cher Francine?
Marcel Dugas, qui va nous parler de la Fondation de Montréal. Il semble-t-il qu'on a perdu une année, là, je comprends pas trop. Il va nous expliquer ça clairement, comme à son habitude. Je vais recevoir Valérie Jessica Laporte, mm-hmm. autiste, femme aux multiples talents, maman... et porte-parole de la Fédération québécoise de l'autisme. Et du côté techno, je vous parle de Facebook et je vous parle aussi d'un événement auquel j'ai assisté cette semaine, un colloque en enseignement supérieur et l'intelligence artificielle.
Bravo.
D'ailleurs, de votre côté, il vous reste quand même quelques minutes de micro.
Secondes, peut-être?
Non, je vous ai laissé quelques minutes. Allez-y, de quoi allez-vous?
Je voulais juste vous dire que Valérie Jessica Laporte, je suis allé voir sur YouTube ses capsules. Ça vaut la peine.
Et j'imagine qu'elle va nous en parler parce que je lui ai demandé de le faire, de nous expliquer comment elle arrivait à faire ces capsules-là qui sont d'un naturel mais qui sont pédagogiques en même temps.
Ah oui, puis drôle.
Oui.
Enfin. Et moi, je reçois Ilric Normando, puis vous allez dire, ceux qui nous écoutent régulièrement, mon Dieu, il est encore là, lui. Mais il revient dans notre table ronde de 6 semaines maintenant. Pour nous parler de ce qui va se passer à l'Association québécoise des parents d'enfants handicapés visuels, l'AQPEHV.
L'AQVEV, je pense.
L'AQVEV, hein? Oui, ouais, OK.
C'est pas facile à dire.
On va faire qu'on travaille sur un acronyme pour eux autres. On va leur proposer quelque chose. D'ici là, lançons la chanson.
Après, juste après la toute fin, dans le moment où s'ouvre l'immense, le bout de fil que je tiens dans ma main, c'est là que ton histoire commence. Les souvenirs, ces oiseaux qu'on a nourris de détails, mille petits riens semés au vent d'avant, sont des images qui aujourd'hui s'éveillent, qui viennent dérouler un peu de ton temps. Il y a la vie qui suit la vie, quand la parole prend le relais. Celle d'après, celle qui se dit. La place vide, cette chaise qui est restée, que je côtoie. Une chaise libre, silencieuse, immobile. Elle est si vide qu'elle est pleine de toi. Et tous les jours, dans les détours, je rencontre ton absence. Elle porte encore tes habits, tes contours. Elle va et promène ton ombre en silence. Il y a la vie qui suit la vie, quand la parole prend le relais. Celle d'après, celle qui se dit. Il y a la vie qui suit la vie, quand la parole prend le relais. Celle d'après, celle qui se dit.
C'était La vie qui suit la vie. Vous avez probablement reconnu Fred Pellerin, ça m'étonnerait que vous ne l'ayez pas reconnu. Mais la personne qui l'accompagnait, parce qu'on a des duos toujours, c'est Joran. Et on l'entend sur son violoncelle, mais c'est elle qui chantait aussi en arrière.
Ouais. Une belle présence discrète qui vient appuyer une très belle performance de Fred de Pellerin.
Oui, vous êtes à Fred, vous, hein?
Oh, moi, je suis... Aujourd'hui, on parle de mes favoris, alors donc
Nadal
Fred et Pellerin. Puis Fred Pellerin. Ça va bien, ça part bien la journée. Dans Le Devoir, hyper-trucage pédophile. C'est un texte de Stéphanie Marin. Alors, on parle ici du fameux deepfake, la technologie qui permet de créer des vidéos porno à partir de n'importe quel visage d'enfant trouvé sur Facebook. Des pédophiles ont désormais recours à la technologie de l'hypertrucage pour créer encore plus de pornographie juvénile. Ils remplacent des visages par ceux de jeunes, alors ils trouvent des visages, ils remplacent les visages par ceux de jeunes qu'ils ont trouvés un peu partout, souvent sur Facebook, là où les parents affichent fièrement des photos de leur progéniture. Alors, la Sûreté du Québec y va d'une mise en garde aux parents. Attention à ce que vous mettez en ligne. Le Devoir a rencontré René Morin, qui est porte-parole du Centre canadien de protection de l'enfance, et qui dit, ce monsieur Morin, que la technologie soutenue par des logiciels utilisant l'intelligence artificielle permet de commettre des crimes qui pourraient mettre en cause virtuellement tous les enfants de nos communautés. Et ça, c'est en fait, c'est un juge, il rapporte un lit de parole d'un juge, Benoît Gagnon, qui a eu à rendre un jugement sur un cas semblable. Et ce qui est important, c'est de reconnaître que souvent, on est à l'origine de ce qui va arriver. On va prendre des vidéos, par exemple, dans des lieux publics où ça va mettre en valeur les prouesses de nos enfants et la suite donne froid dans le dos parce qu'évidemment, on récupère ce qu'il y a là-dessus et on s'en sert à d'autres fins. C'est le cas de le dire. Quel est l'avantage, quel est l'intérêt de remplacer ainsi les visages par d'autres? Alors, selon M. Morin, que je viens de citer, les délinquants le font pour intégrer les visages d'enfants qu'ils connaissent, un petit voisin ou un membre de leur famille. Et il y a deux objectifs. Le premier, c'est de donner libre cours à leurs fantasmes. Et le deuxième, évidemment, c'est que les vidéos qui sont ainsi produites ça peut aussi servir à faire de ce qu'on appelle la sextorsion, c'est-à-dire tu me donnes combien, si tu ne me le donnes pas, je vais mettre cette vidéo en ligne avec ton enfant. Alors, je le répète plusieurs fois dans le texte d'ailleurs, différentes personnes, que ce soit ce monsieur Morin dont j'ai cité les paroles, ou encore le juge qui a rendu jugement récemment. Dans les deux cas, on rappelle qu'il faut être très, très, très vigilant.
Vous n'avez pas l'impression que la technologie est en train de nous échapper avec l'intelligence artificielle, avec des cas comme celui-là?
Bien, en fait, on pourrait en discuter longuement, mais je vais en parler dans ma chronique un peu. C'est qu'il faut être aux aguets, puis il faut prendre les devants. Et on s'est laissé faire avec l'Internet, hein, quand c'est arrivé il y a plusieurs années. Oui. On s'est laissé faire avec certaines technologies, certaines applications, puis on dirait qu'on n'apprend pas de tout ça. Et on a une confiance incroyable, pour ne pas dire aveugle, dans toutes ces bébelles technologiques qui peuvent avoir un très, très beau côté. Il ne faut pas oublier ça.
Donc, à suivre plus tard dans cette émission.
À suivre plus tard, mais on va en parler brièvement parce que malgré toutes les minutes que vous me laissez aujourd'hui, c'est loin d'être suffisant pour parler de ces sujets.
Je note.
Alors, je reviens sur les unes du côté du journal de Montréal, oui. On parle de santé mentale et de suicide chez les jeunes. Un suicide d'une jeune fillette de 10 ans dont on a parlé cette semaine jusqu'à 25 ans. Alors, c'est une enquête de Héloïse Archambault et Hugo Duchesne qui porte sur ces incroyables gestes qui sont posés par des jeunes. Je vais m'attarder principalement à deux cas, un échec tragique du système. Alors, deux mères qui sont inconsolables, que leur enfant ait mis fin à leur jour au moment de leur congé de l'hôpital. Je parle plus particulièrement de cette mère endeuillée qui n'arrive toujours pas à concevoir le suicide de son fils de 23 ans au lendemain de son congé en psychiatrie, alors qu'elle avait prévenu que son garçon savait exactement quoi dire pour pouvoir partir. Ce qu'elle dit, c'est que son fils était capable de... finalement, de charmer personne et de leur faire croire que tout allait pour le mieux et qu'il était capable de prendre ses choses en main. Mais dans le fond, il y avait vraiment un plan. Et ce plan-là, il l'a mis à exécution.
Tout de suite après.
Après avoir vu le psychiatre, le lendemain matin, le jeune patient a obtenu son congé de l'hôpital. Les parents n'ont pas été avisés parce qu'on parle évidemment d'enfants, voilà, d'enfants qui sont majeurs. Et au lendemain de ce congé, le jeune homme a finalement mis son plan à exécution. Encore aujourd'hui, Mme Lafleur est très émotive parce que ça fait quand même un certain temps que c'est arrivé. Et c'est la même chose chez une autre personne, Robin Major, qui a aussi qui a mis fin à ses jours à peu près dans des circonstances très semblables. Et sa mère, Sylvie Godon, évidemment, est encore très émotive, même si c'est arrivé quelques années. Comme quoi la situation perdure. Cette fois, pour terminer, je me tourne vers la presse plus. Mourir au salon funéraire.
Oh mon Dieu, oui.
Oui, alors en une, la Presse Plus parle de cette nouvelle industrie. Je mets le mot entre guillemets, mais ça m'a fait vraiment penser à ça. Là. C'est un modèle d'affaires, c'est-à-dire qu'on peut avoir un clé en main. Et là, ce ne sont pas mes paroles, c'est vraiment cité dans l'article et c'est même dit par ceux qui pensent à offrir ce service. Bon, alors on s'est dit du côté des maisons funéraires, les hôpitaux débordent, les maisons de soins palliatifs n'ont pas toujours de place, puis il y a un intérêt croissant des Québécois pour l'aide médicale à mourir. Donc, il y a un complexe funéraire de la Montérégie qui offre depuis quelques semaines un forfait clé en main aux patients qui veulent mourir dans son salon d'exposition. C'est une pratique qui pourrait se répandre, c'est ce qu'on apprend, mais c'est une pratique aussi qui soulève beaucoup de questions. Parce que, semble-t-il, que dans la loi, on dit que les soins de vie peuvent être administrés dans un établissement et la définition d'établissement, semble-t-il, explicitement réfèrent à soit des établissements de santé ou des établissements qui sont reconnus pour offrir ce type de service-là.
Ou une maison privée?
Ce n'est pas le cas. Oui, ça peut être aussi une maison privée, mais ce n'est pas le cas, semble-t-il. C'est ce que certains peuvent laisser entendre dans l'article. On se défend bien dans ce salon funéraire de faire ça juste pour, je dirais, sur le plan pécunier. Ce qu'on dit, c'est qu'ils agissent avec bienveillance et que tout est fait vraiment pour rassurer le patient, sa famille et tout. Alors, ce qu'on fournit, c'est un lieu. Alors, on paie autour de 700 $, c'est ça qu'on comprend, pour pouvoir bénéficier de ce lieu-là. Et après, les soins viennent évidemment de l'extérieur, parce que ça prend quand même des professionnels de la santé pour le faire. Mm-hmm. Et quand la cérémonie est terminée, parce que souvent, il y a une cérémonie familiale, quand c'est terminé, à ce moment-là, le corps est
sur place.
Au salon funéraire. Il est déjà rendu, il est sur place. Ça questionne beaucoup. En tout cas, moi, ça m'a perturbé un petit peu ce matin quand j'ai lu ça. On est rendu là, je ne sais pas. Voilà.
Bonjour, Monique Kerouac en Estrie.
Bonjour, Yvan. Bonjour, Francine.
Vous êtes bien en Estrie?
Est-ce que vous êtes déjà allé au sommet du Mont Mégantic?
Non, ça, j'ai
non?
pas fait
eh
ça.
Ben, et vous, Francine?
Non, jamais.
Non? Alors, imaginez, il fera peau neuve. Il faut rappeler que le parc national du Mont Mégantic a été inauguré en 1994 et il se trouve en plein cœur de la première réserve internationale de ciel étoilé. Alors, l'offre d'activités au parc national du Mont Mégantic va être bonifiée de façon importante. Deux nouveaux observatoires sont prévus, tout comme l'installation d'un dôme vitré. Alors, imaginez, les visiteurs pourront aussi faire de la descente en luge et rallier le sommet de la montagne, ça va vous plaire, ça y va, en vélo électrique.
Ah.
Et je pense que c'est été comme hiver.
Oh oui, c'est vrai que ça m'intéresse.
Alors, l'ensemble du projet prévoit aussi la construction de nouvelles terrasses, la transformation d'une résidence pour astronomes en refuge de montagne d'une capacité de 16 personnes, de même que la construction d'une annexe pour le personnel scientifique. Alors, il y a aussi l'une des installations, nouvelles installations, qui comptera un télescope Newton de 91 cm. Ce sera le plus gros télescope qui va être accessible au public au Mont Mégantic, qui permettra de voir le ciel profond, comme les galaxies et les nébuleuses, des images tout à fait époustouflantes. Et bien, tout ça sera inauguré à l'été 2025. On change d'univers, on s'en va au musée de l'ingéniosité J. Armand Bombardier. Alors, Carole Posé termine, semble-t-il, une carrière florissante dans l'univers des musées québécois. La directrice de ce musée de Valcourt cède la place non pas à un, mais deux directeurs qui ont été choisis à même son équipe pour assurer une transition quasi imperceptible dans la gestion du musée. Rappelons qu'en 2022, Carole Posé a reçu un prix carrière de l'Association canadienne des centres de sciences après 35 ans dans le domaine. Je vous parle maintenant d'une mission qui aura lieu en Belgique et c'est la mairesse de Magog et son directeur général qui s'envoleront du 28 mai au 2 juin pour prendre part à une mission économique organisée par la MRC de Memphrey-Magog en Belgique dans la région de Wallonie-Picarde. Cette mission permettra de consolider les liens créés par la ville lors d'une première mission semblable qui a été menée en 2018. Pourquoi? C'est pour concrétiser, vous le devinez, des liens économiques et de faire en sorte qu'il y ait éventuellement des satellites d'entreprise qui viennent s'établir à Magog. Les secteurs privilégiés, ceux de la des technologies de l'information, mettre en valeur aussi l'incubateur industriel de cette ville. Elle sera aussi, la mairesse, à l'affût des bonnes pratiques en matière d'économie circulaire, d'aménagement du territoire, de transport actif et de densification. Je vous parle d'une bien triste nouvelle, cette fois, les récoltes. Vous le savez, les températures froides des derniers jours donnent la vie dure aux producteurs agricoles de la région. Imaginez, une culture complète d'asperges qu'on attendait avec tant d'impatience a été détruite à Weedon. Monsieur Provencher, Marc-Antoine Provencher, a perdu jusqu'à 200 kg de sa récolte qui a gelé. Le mercure a atteint moins 5 degrés dans la nuit de mercredi à jeudi. Dans la municipalité, c'est une perte de 10 000 $. Branle-bas de combat aussi au vignoble La Halte des Pèlerins à Sherbrooke. Vous imaginez que l'équipe a travaillé d'arrache-pied. Pendant plusieurs jours, même scénario à Brigham, au vignoble du Pic-Bois, où les vignerons qualifient leur dernière nuit comme infernale. Ils ont allumé des feux au bout de chaque allée de vigne. Écoutez, 30 cordes de bois et 2 tonnes de foin qui ont brûlé dans les champs depuis les derniers jours, mais ça n'a pas épargné. Malheureusement, les cépages hâtifs, ils ont beaucoup de dégâts. Je terminerai en parlant de culture, les arts, mais cette fois,
c'est la suite, mais différente.
Oui, c'est ça, exactement. Les arts sont plus vivants que jamais dans la vallée de Massawippi. Alors, un nouveau regroupement, Arts, Culture, Massawippi, prend forme depuis quelques mois, grâce à la vision et l'implication d'une centaine de membres, dont Robert Lalonde, Marie Tifot, Denis Bouchard et Pierre Curzi. Alors, semble-t-il que les gens ont envie d'avoir des spectacles, des lectures, du théâtre, de la musique proche, d'être dans des endroits plus intimes que dans les grandes salles. Une des premières activités, prenez bien note, une exposition sera lancée le 28 mai au pub de la compagnie Villandré à Notatelier. Alors voilà, c'était vos nouvelles de l'esprit.
C'est une belle activité, ça. Merci beaucoup,
Monique. Merci.
Ça fait plaisir. À la prochaine.
De mon côté, un petit blitz du côté de Québec. Il y a une bière de Lévis qui est médaillée d'or aux Olympiques de la bière. Alors, il y a une microbrasserie de Lévis qui s'appelle la microbrasserie Le Corsaire, qui a vu sa bière baptisée Anne Bonny gagner une médaille d'or lors des Olympiques de la bière qui se sont tenus à Nashville, dans l'État du Tennessee, la semaine dernière. Dans Le Soleil, on voit aussi que le maire Marchand est très en colère par rapport à Radio X et par rapport à un de ses annonceurs, Dominique Moret en particulier. On va probablement s'en aller en cours, peut-être, c'est considéré. Du côté de l'Outaouais, il y a un possible mandat de grève d'ici le 30 juin pour les enseignants de l'Outaouais. Et on fait une petite pause et au retour, on va connaître le bleuet atypique sur le web. Alors, à tantôt.
Vous pouvez vous écouter au quotidien 5e édition avec Yvan Deslauriers et Francine Forget.
Malgré la peur au fond de moi, humilié ou de tomber, j'ai cette immense force qui me permet de rêver. Je n'ai rien face aux géants, mais j'ai le sang qui bat fort et mon cœur est vivant. J'ai le souffle qui se libère en un grand coup puissant. Je suis aimé de l'intérieur à l'infini. Je suis aimé de la mort au paradis. De l'intérieur à l'infini, je suis aimée à l'infini. Malgré la peur au fond de moi qui me fait mal, bloque ma voix, j'ai cette immense paix qui me permet de crier. Je n'ai rien face au néant, mais j'ai le sang qui bat fort et mon cœur est vivant. J'ai le souffle qui se libère en un grand coup puissant. Je suis aimée de l'intérieur à l'infini. Je suis aimée et de la mort au paradis. Je suis aimée de l'intérieur à l'infini. Je suis aimée à l'infini. Mmh. je suis aimée. De l'intérieur à l'infini, je suis aimée. Et de la mort au paradis, je suis aimée. De l'intérieur à l'infini, je suis aimée. À l'infini.
La chanson « Je suis aimé » de Laura Gagné.
Merci.
Est-ce que c'était une chanson pour moi, ça?
Pour tout le monde.
D'accord.
Notre invité, Yvan, ce matin, je vais essayer de la présenter, mais ça prend du temps, la présenter.
Oui, puis ça, c'est
elle
en français.
Elle a tellement de rôles. Valérie Jessica Laporte, elle est porte-parole de la Fédération québécoise de l'autisme. Je ne sais pas si j'aurais dû commencer par « Maman de trois enfants ».
Oui.
Ou encore par designer graphique, photographe, photographe professionnel et artistique, romancière, parce qu'elle a quand même quelques romans qui ont été publiés, et créatrice du bleuet atypique. Je suis essoufflée.
Est-ce qu'elle dort?
Je ne sais pas, on va lui demander. Bonjour Valérie Jessica Laporte.
Bonjour, je dors, mais je lis avant de dormir.
Ah, OK, mais est-ce que vous dormez beaucoup? C'est une question qui se pose.
Ben depuis quelques années, j'ai commencé à dormir plus. À un moment donné, il y a un psychiatre qui a dit non, ça fait pas. Puis c'est fou à quel point mon efficacité a encore plus augmenté. J'avais peur d'en perdre si j'avais 2 heures dans une journée. C'est épouvantable.
Alors, vous êtes une personne vraiment inspirante. J'ai eu l'occasion de vous le dire et j'aimerais partager cette inspiration avec l'ensemble de nos auditeurs. Vous avez eu un diagnostic d'autisme à 38 ans.
Oui.
Oui, c'est ça. Et le chemin de l'acceptation, il a été quand même pas si facile.
Une fois, ça n'a pas duré trop longtemps, mais oui, au début, il y a un choc. Puis oui, au début, il y a toute cette crainte-là de « Oh, le monde ne va plus m'aimer. » Puis « Oh, mais c'était tellement la panique. » J'avais tellement peur du regard des autres, de qu'est-ce qu'on allait dire, de si ça allait passer ou pas, si j'allais diminuer là-dedans. Puis je me suis rendu compte que finalement, tout le monde était au courant que c'était autiste, sauf moi.
C'est ça, en fait.
J'ai juste été la dernière informée.
Ça avait été la dernière informée. Donc, c'était pas pénible pour vous de dévoiler ça?
Au début, oui, quand même. J'étais très craintive. J'étais allée avec des petits pas. J'ai commencé par des personnes très proches. Puis au début, c'était bien, bien intense, mon affaire. Puis après ça, tranquillement, j'ai commencé à le dire plus librement. Puis à un moment donné, j'ai voulu en parler au travail parce que j'étais souvent confrontée à des situations qui étaient peut-être plus complexes à gérer. Puis quand on ne sait pas, on ne comprend pas pourquoi ça arrive, j'ai demandé conseil à un professionnel en communication qui est habitué au niveau politique, tout ça, communication municipale. Donc, lui, il m'a conseillé de quelle façon en parler. Puis après ça, j'ai été correcte, ça va vraiment bien.
Est-ce que c'est un conseil que vous donneriez à d'autres de faire?
Il m'a dit, tu vas recevoir le miroir de ce que tu vas donner.
Ah, c'est bien ça.
C'est tellement clair. Là. OK, ça va être la façon de le nommer. Il y a tantôt, j'ai eu besoin de le nommer parce que je fais un site web conjointement avec quelqu'un d'autre. Puis, tu sais, il y avait quelque chose qui était peut-être un obstacle pour moi, mais j'ai vraiment nommé en contrepartie, ça a cet avantage-là. Ça me fait gagner beaucoup, beaucoup en efficacité. Mais cette partie-là du travail, ça ne va pas avec moi. Je ne suis pas capable. Mais, il y a des avantages. Je suis capable de voir les deux côtés de la médaille et de te présenter. Donc, je ne suis pas en train de faire « Ah, mais là, je suis ça. » Fait que, tu sais, les gros meetings Zoom là, pendant une heure, là, je ne suis pas capable. T'sais. Au lieu de dire ça, je fais « Gars, tu vas sauver de l'argent, je ne te facturerai pas ça, fais-moi sauter ça, donne-moi juste le travail à faire, s'il te plaît.
» C'est bien, c'est bien. Est-ce que vous avez tellement d'activités, on ne sait pas par quel bout commencer. Vos romans que vous avez écrits, qui sont des romans, mais en même temps, je vous dirais, c'est un peu... c'est très autobiographique, là.
Ben, pas l'histoire. Dans le fond, c'est vraiment que je prête mes yeux au personnage. Mais je suis vraiment pas allée dans ma propre histoire. J'ai fait bien, bien attention, justement, pour que les personnages, ce ne soient pas des personnages précis. J'ai mélangé des personnalités dans des personnages pour aller faire c'est, mettons, le petit garçon, ça va avoir été un mélange là, de mon fils, de mon ami qui est une adulte à la retraite. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai mélangé des gens pour justement, pour que ça soit les mêmes. mm-hmm,
mm-hmm.
Je voulais pas faire ça. Puis l'histoire, c'est fictif. Mais par contre, tout le ressenti, la façon de regarder les choses, la façon de les vivre, l'analyse de ce qui se passe, la compréhension des... Dans le fond, j'essayais de passer mon personnage dans des situations, puis je me disais, je réagirais comment? Je verrais ça comment? Et c'est comme ça.
Ouais. Mais dans le fond, c'est une belle façon de démystifier l'autisme aussi.
Ben, c'est plus ludique. C'est pas un cours magistral, là. Il y a vraiment un loisir à avoir à lire ça. Moi, j'adore lire des histoires de gens qui vivent des réalités complètement différentes de la mienne, que ce soit au niveau de la culture, que ce soit au niveau de l'âge, que ce soit au niveau des différences neurologiques ou d'autres conditions. J'aime apprendre sur qu'est-ce qui me ressemble pas parce que c'est des univers, là. Donc, je trouve que oui, on apprend beaucoup, mais sans que ce soit rentré force dans la gorge, là, c'est vraiment le fun. C'est une bonne histoire.
Qu'est-ce qui vous a... Parce que là, vous êtes une créatrice. Je pense que c'est toujours en ébullition dans votre cerveau, tout ce que vous faites. Qu'est-ce qui vous a amené à créer ce bleuet atypique, juste pour le bénéfice de nos auditeurs? Bleuet atypique, c'est un site web, mais aussi qui se décline là, sur différentes plateformes. Vous pouvez aller sur ce site, le bleuetatypique, dans un seul mot.com.
Ben, au début, moi, je voulais juste écrire ce que je ressentais. J'avais quelque chose à vivre que je trouvais difficile, soit d'aller chez le dentiste. Et là, j'ai écrit ça, je me suis relue, j'ai fait « mais c'est dommage bon, c'est drôle ». Et là, j'ai vu que je me sentais mal moins longtemps. Alors, j'ai eu envie de partager ça et il fallait que ça sorte. Au début, c'était ça, là, j'avais beaucoup de choses à écrire. Au début, j'écrivais tous les jours, c'était épouvantable, ça poussait par l'intérieur. Et ça a commencé comme ça. C'est tranquillement que les gens m'ont dit, ben, OK, nous, c'est vraiment difficile de lire, est-ce que tu es capable de nous faire des petites vidéos? Là, j'ai commencé à faire des petites vidéos, puis c'était un peu maladroit au début. Puis c'est vraiment quelques années plus tard là, que je suis arrivée avec TikTok, mais j'avais eu le temps de prendre confiance en moi pendant des années. Ça a été long. Au début, j'avais pas ma photo, je voulais pas que les gens me reconnaissent. Ça, c'était vraiment un processus là, à ce niveau-là. Tu sais, où l'acceptation autour de mes proches, ça a bien été, mais publiquement, là, j'avais encore beaucoup de crainte. Puis à un moment donné, j'ai fait, ben, je suis solide, là. Je suis correct. Là, j'ai assez confiance en moi. Puis s'il y en a que ça bloque, ben, tant pis pour eux autres. Puis ça, c'est pas grave.
Vos vidéos, là, que nous, on trouve extraordinaires, Yvan et moi,
oui, beaucoup, oui.
Qui nous font rire. Ça, c'est sûr. On ne peut pas passer autrement. Vous avez un humour, mais un humour bienveillant. Comment vous qu'est-ce qui vous inspire? Est-ce que c'est des choses que vous vivez puis vous dites, oh, je fais ça là-dessus? Est-ce que c'est un geste spontané? Ou si c'est déjà planifié et comment vous les faites, comment vous les produisez?
Très varié. Ce qui est planifié va habituellement prendre beaucoup plus de temps puis va tarder. J'essaie de tout faire de façon spontanée, sauf si ça implique quelqu'un ou un conflit. À ce moment-là, là, j'essaie vraiment de prendre un gros recul, de un, pour ne pas identifier la personne, de deux, pour ne pas raconter sous le coup de l'émotion puis que mon jugement soit biaisé. J'attends d'être complètement en dehors de la situation avant de l'aborder quand si je constate que, mettons, on m'a fait quelque chose de pas correct. Mais ça, c'est quand même plus rare. C'est juste que j'en ai raconté une hier, là, ça date de quelques semaines. Puis j'avais besoin d'en parler. C'est quelque chose de. C'est un mensonge auquel j'ai été confrontée au travail qui a généré un conflit, un mensonge qui a été inutile, puis que, je veux dire, c'est courant dans le monde du travail, ce type de mensonge-là, c'est pas des mensonges graves, mais moi, je fonctionne pas comme ça, puis c'est dur, alors j'avais besoin d'en parler et expliquer comment ça s'était passé. Donc, il y a eu ça. Après ça, par contre, quand je vis de quoi moi-même, là, j'essaie que ça soit tout de suite. Plus c'est rapide, mais souvent, je le poste pas, là. Tu sais, je regarde après, il y en a plein que je mets pas sur les réseaux.
Ah, ouais. Bon, c'est ça. Alors, donc, vous regardez après. Donc, il y a quand même un temps où vous évaluez et après ça, vous décidez si c'est bon de le mettre pour vous et aussi pour expliquer la condition, j'imagine.
Oui, parce que, tu sais, c'est incompréhensible parce que je suis complètement plus là. Parce que des fois, tu sais, c'est trop dur. Et s'il n'y a rien à comprendre parce que la personne n'est pas en état, ben là, je le mettrai pas. Il n'y a pas d'éducation à faire avec ça. Tu sais, des fois, je suis juste trop fatiguée, trop chargée d'une situation, puis là, c'est pas bien organisé. Il faut quand même que le contenu soit, que ça se tienne.
Mon collègue a une question pour vous.
Oui, une question de curiosité, Mme Laporte. Ça fait deux fois que vous mentionnez « au travail, il est arrivé telle chose ». C'est quoi votre travail?
Bien, mon travail principal, c'est designer graphique.
D'accord.
Puis moi, je travaille à la maison, donc ça me permet d'avoir au moins mon 8 heures par jour toute seule, chose qui c'est vraiment très important pour moi, j'en ai besoin, c'est une des choses qui me rend efficace. Si vous m'enlevez ça, là, je vais vous me couper le cerveau en deux. C'est terrible, je le sens là, que mes fonctions cognitives diminuent, ma patience, mes qualités. Tu sais, je trouve que j'ai un bon jugement et que j'ai une bonne maîtrise de moi en général, mais tout ça, ça prend le bord, là, si vous m'enlevez ça. Donc, ça, c'est bien, bien important. Sauf que j'ai affaire quand même avec des clients. Donc, des clients, mais au téléphone, en Zoom, des choses comme ça. Mais moi, je suis très directe. Faut que ça roule. Je suis calme quand c'est pas correct. Je vais le dire aux clients. T'es clients, t'as pas d'affaire pour rien dire. Là, c'est pas efficace. Là. Tu en as trop au niveau d'information. Arrête d'en vouloir en mettre 50.
Oui, oui, oui.
Ça a intérêt à être clair, comme on dit. Ah, c'est ça, c'est ça.
Ma cliente préférée, c'est son fournisseur préféré à vie qui a dit qu'elle adore ça.
Bon, mais tant mieux, tant mieux. Écoutez, le temps file. Oui. Est-ce qu'on pourrait parler juste un petit peu de votre rôle de porte-parole de la Fédération québécoise de l'autisme? En quoi ça consiste avant qu'on se quitte?
Bien, c'est ça. Moi, ça a été comme... je ne sais plus le mot, mais... Ça me donne, ah oui, de la crédibilité. J'ai eu l'impression, mon cadeau à moi, c'était de la crédibilité que ça me donne. Ça veut dire que mon travail était bon. Là. Mais d'un autre côté, c'est, je le faisais déjà quand même, j'avais déjà commencé. Je peux communiquer sur leur bon coup, leurs publications, les documents, les outils qu'ils mettent, qu'ils donnent aux gens. Quand ils ont certaines recherches à faire, des fois, ils sollicitent les gens pour participer à certains sondages, des choses comme ça. Je diffuse de leurs informations. Et en même temps, ils m'envoient aussi des journalistes parfois. C'est pas un énorme travail, mais ça prend quelqu'un pour faire ça, et ça a donné que c'était moi. Donc, moi, je suis contente d'être ce visage-là parce que moi, j'ai pas l'impression que l'autisme, c'est comme séparé en morceaux des cases précises. Là. C'est vraiment quelque chose de fluide. Autant on n'est pas flexible, autant là-dedans, je trouve qu'on est flexible à quel point on chevauche les catégories selon nos défis. C'est tellement quelque chose qui est tout ensemble. Là. Et je vois tellement de traits de moi chez toutes les autres autistes aussi qui parlent pas, qui ont d'autres difficultés. Ça, je me reconnais dans plein d'autres affaires pareilles. Fait que, je me sens faire partie de ce tout-là. Donc, je suis vraiment à l'aise de pouvoir être là.
Merci, Valérie Jessica Laporte. On aurait continué encore longtemps.
Avec plaisir, d'ailleurs.
Je vous dirais que c'est probablement juste un au revoir.
Ah, OK.
On se reparlera sûrement dans d'autres circonstances. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir été à notre rencontre ce matin.
OK, bye!
Bye! Alors maintenant, c'est le moment, Marcel Dugas, de notre émission. Alors ce matin, notre chroniqueur histoire va nous parler de la Fondation de Montréal. On a fêté cette semaine les 381 ans, saviez-vous ça?
J'ai manqué ça.
Vous avez manqué ça, moi aussi. Et semble-t-il qu'en tout cas, il y a un petit problème là, quant à la date à laquelle Montréal aurait dû être fondée et à la date à laquelle Montréal a été fondée.
Il y a une date où elle aurait dû être fondée.
Alors voilà, on va écouter Marcel, il va tout nous expliquer ça.
Bonjour.
Bonjour.
Oui, effectivement, on a soufflé 381 bougies à Montréal cette semaine, mais techniquement, ça aurait dû être 382 bougies sur le gâteau, parce que la ville aurait dû être fondée à l'été 1641 plutôt qu'au printemps 1642. Montréal a perdu une année d'existence. À quoi est attribuable le retard? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces mois-là? Bien, avant de fonder Montréal, il faut remonter un siècle en arrière. Jean Cartier débarque à Gaspé en 1534. Il a devant lui ces immenses étendues de terre vierges, en tout cas elles étaient vierges selon les standards des Européens. Lors de son deuxième voyage l'année suivante, Cartier va remonter cet immense fleuve jusqu'à ce qui deviendra l'île de Montréal, qui était évidemment pas vierge, elle non plus. Elle était fréquentée par les Premières Nations depuis des siècles, et on y retrouvait une cité iroquoienne nommée Hochelaga, qui comptait probablement plus de 1000 habitants, ce qui était vraiment énorme là, de par les standards de l'époque. Toutefois, les Européens qui s'aventureront dans la région au début du 17e siècle ne trouveront pas de traces d'Hochelaga ou d'un quelconque autre établissement autochtone sur l'île. On ne sait pas ce qui est advenu de la cité, ni où elle se trouvait. En 1600, les Français fondent le poste de Tadoussac, puis Québec en 1608. En 1611, Samuel de Champlain visite à son tour l'île de Montréal et va réfléchir à l'opportunité d'y installer un poste de traite. Le projet n'aboutira pas de son vivant. En 1634, on fonde Trois-Rivières, donc les Français poussent de plus en plus vers l'intérieur du continent. Et à peu près au même moment, arrive dans l'histoire un nommé Jérôme le Royer de la Dauversière. Le Royer, c'est un petit seigneur, un percepteur d'impôts à la Flèche, en Anjou. C'est surtout quelqu'un qui a des visions. Dieu va lui faire voir l'île de Montréal et lui faire comprendre qu'il doit travailler à l'établissement d'une mission pour évangéliser les membres des Premières Nations. Il va s'allier notamment à un jeune religieux nommé Jean-Jacques Ollier. Ollier, lui, souhaitait évangéliser des infidèles, mais il n'avait pas décidé lesquels encore. Sa rencontre avec le Royer va lui permettre de trouver sa voie. Il sait maintenant qui il va évangéliser, ces pauvres autochtones de ce lointain Canada qui ne connaissent même pas l'existence de Dieu. Quelle horreur! Ensemble, ils vont fonder la Société Notre-Dame de Montréal. Ils sont concédés une partie de l'île de Montréal en 1640. Ne reste qu'à recruter des colons et on pourra lancer cette grande œuvre missionnaire. Pour diriger l'expédition et la ville une fois qu'elle sera fondée, on choisit un militaire originaire de Champagne, qui n'avait même pas 30 ans, du nom de Paul Chomédé de Maisonneuve, qu'on a décrit comme étant un gentilhomme de vertu et de cœur. On assemble un groupe d'une cinquantaine de personnes, presque exclusivement des hommes, mais il y a quelques femmes sur le lot, dont une en particulier qui va s'imposer, c'est Jeanne Mance. Jeanne Mance est originaire de Champagne, tout comme Maisonneuve. Arrivée à la mi-trentaine, elle n'est pas mariée et elle va développer l'envie de partir pour l'Amérique et participer à cette œuvre colonisatrice et missionnaire. Elle rencontre Jérôme le Royer qui va la convaincre de partir pour Montréal en qualité d'infirmière et de responsable des finances et de l'approvisionnement. Elle était l'économe de la nouvelle ville, comme on disait autrefois. C'est elle qui va fonder l'Hôtel Dieu de Montréal. Le 9 mai 1641, deux navires quittent le port de La Rochelle, dans l'ouest de la France, avec à leur bord la majeure partie du groupe de colons qui s'en allait fonder Ville-Marie / Montréal. La ville va être consacrée à la Sainte Vierge pendant ses premières décennies. D'ailleurs, Maisonneuve écrivait souvent « Ville-Marie en l'île de Montréal en la Nouvelle-France ». Donc ça, c'est le nom tout à fait complet de la cité au départ. Il y a un troisième navire à bord duquel se trouvait une dizaine de Montréalistes, comme on disait à ce moment-là, qui est parti de Dieppe, dans le nord de l'Hexagone. Donc, retenez la date. On quitte la France le 9 mai 1641. La ville sera fondée 373 jours plus tard. À ce moment-là, on traverse l'Atlantique à la voile. On ne sait jamais combien de temps ça va nous prendre. Ça peut prendre un mois, et ça aurait été parfait si on avait pu mettre pied à terre sur l'île à la mi-juin. Ça, c'était le scénario idéal, mais ça pouvait aussi facilement prendre 3 mois. Et le navire qui transportait Jeanne Mance est arrivé à Québec autour du 8 août, donc presque exactement 3 mois en mer. Déjà là, c'était limite. On s'en va créer une ville de toutes pièces, tout est à faire. Ça ne nous laissait pas beaucoup de temps pour s'installer plus ou moins convenablement avant l'hiver. Mais le problème, c'est que le navire transportant Maisonneuve et le gros des colons, dont il y avait autour de 25 personnes à bord, n'arrivait pas. On a beau être parti du même endroit au même moment, les deux bateaux avaient suivi des trajets différents et celui de Maisonneuve avait été frappé par plusieurs tempêtes. On nous rapporte que Jeanne Mance était rongée par l'angoisse. S'il avait fallu que le navire ait sombré avec le commandant et tous ces hommes-là, ça aurait été un désastre à plusieurs niveaux. On ne sait pas à quel moment Maisonneuve va finalement débarquer en Amérique, mais il est plausible que sa traversée à lui ait duré plus de 4 mois. Donc là, il est vraiment trop tard pour penser continuer jusqu'à Montréal. La fondation du nouveau poste devra attendre 1642. Mais Québec, c'est encore tout petit à ce moment-là. C'est pas si facile loger une 50aine de visiteurs imprévus, surtout s'ils comptent rester 7, 8, 9 mois. On ne savait pas très bien à ce moment-là. Il y a un nommé Pierre Dupuiseau de Montréneau. C'est un septuagénaire. Il était propriétaire de 2 seigneuries dans la région de Québec. Il demande à rencontrer Maisonneuve. Et quand ce dernier lui a parlé de l'œuvre qu'il s'en allait entreprendre auprès des Premières Nations, Montréneau a non seulement accepté d'héberger les Montréalistes sur ses terres, mais il a donné ses seigneuries à la Société Notre-Dame de Montréal pour contribuer à leur travail. Donc, on avait un endroit où rester, mais le long hiver laissait beaucoup de temps au gouverneur de la Nouvelle-France, Charles Huot de Montmagny, et aux notables de Québec pour essayer de convaincre Maisonneuve de ne pas se rendre à Montréal le printemps venu. On estime que la population française totale de la Nouvelle-France en 1641 était de 240 habitants. Je ne sais pas si ça inclut les Montréalistes ou pas, je ne pense pas, mais ce n'était pas précis. Donc, c'est vrai que ce n'est pas très logique de se répartir de pareille manière sur un si grand territoire alors qu'on était si peu nombreux. On aurait eu bien besoin de ces 50 personnes-là à Québec, dans les environs. Montréal, par ailleurs, serait très vulnérable aux attaques des Haudenosaunis, les Iroquois, si vous préférez. Les Français s'étaient alliés aux ennemis des Haudenosaunis. Le gouverneur disait, si vous faites attaquer, nous, on ne peut pas vous porter secours. Il va offrir à Maisonneuve, s'il tient absolument à fonder un nouvel établissement, de s'installer sur l'île d'Orléans plutôt que sur l'île de Montréal. Ce à quoi le jeune officier aurait répondu, « Monsieur, ce que vous me dites serait bon si on m'avait envoyé délibérer et choisir un poste. Ayant été déterminé par la compagnie qui m'envoie que j'irai au Montréal, il est de mon honneur et vous trouverez bon que j'y monte pour y commencer une colonie quand tous les arbres de cette île se devraient changer en autant d'Iroquois. » C'est du vieux français, mais gros, et d'une part, et non seulement ça, mais la citation est tirée d'un récit publié 30 ans plus tard par quelqu'un qui n'était pas là, donc on ne sait pas au juste ce que Maisonneuve a répondu, mais on l'avait engagé pour fonder une ville sur l'île de Montréal. C'est ce qu'il avait l'intention de faire.
Il n'y avait pas de négociation possible, c'est ce qu'on comprend.
C'est ça, on l'avait décrit comme un homme d'honneur, tout ça. Donc, on lui avait confié une mission. Lui, il n'était pas question de commencer à improviser sur ce que les gens de la Société Notre-Dame lui avaient demandé de faire. L'hiver a été long. Les Montréalistes souffraient moins du froid que de cette fastidieuse attente où leur volonté s'usait dans l'inaction. Ce n'est que le 8 mai, donc presque 9 mois après l'arrivée de Jeanne-Mance à Québec et 1 an après le départ de La Rochelle, que les membres de l'expédition ont pu finalement s'embarquer pour la dernière portion de leur voyage. Et le 17e de mai de la présente année 1642, Monsieur le gouverneur mit le sieur de Maisonneuve en possession de cette île au nom des messieurs de Montréal pour y commencer les premiers bâtiments. Le révérend père Vimont fit chanter le Veni Creator, dit la Sainte Messe, exposa le Saint-Sacrement pour impétrer du ciel un heureux commencement à cet ouvrage. La ville était donc fondée officiellement avec plusieurs mois de retard et en faisant une grande place au bon Dieu. Dans un cas comme dans l'autre, Francine, ça allait donner le ton à beaucoup de ce qui allait suivre.
Et voilà, donc ça nous éclaire un peu plus sur cette année perdue, comme donc, on s'est dit.
Donc ça explique pourquoi le REM est en retard.
Ah, mais ben, peut-être. Est-ce que c'est là qu'on a pris des mauvaises habitudes, finalement?
On a un côté très, très historique. Les gens du REM se disent, la ville a été fondée avec 9 mois de retard. On ne peut pas nous livrer à temps. Il faut être conséquent.
Oui, mais le REM, il me semble que ça fait plusieurs fois qu'il y a des reports, alors que dans ce cas-là, je comprends qu'il y en a eu un seul.
Oui, mais c'est pour pousser l'amélioration du concept.
Bon.
Voilà, alors, je pense qu'on a l'explication. Là.
c'est une forme d'explication. On ne vous lancera pas le défi pour la semaine prochaine. Merci beaucoup, Marcel, et on se retrouve avec un autre sujet intéressant.
À la semaine prochaine.
De mon côté, je voulais d'abord revenir sur quelque chose dont j'ai parlé la semaine dernière, le documentaire « Aimer et différence » qu'on peut trouver sur tout.tv en tout temps. Vous pouvez aussi écouter une entrevue que le réalisateur de ce documentaire-là, L.J. Pichinin, a donnée à Hélène Denis le 9 mai. Donc, vous allez sur le site de Canal M et à l'émission Au quotidien et vous allez pouvoir avoir le plaisir d'écouter cette entrevue. Dans un autre domaine complètement, le défi vélo Papillon Arnois Énergie sera de retour le 26 août. Plus de 500 cyclistes sont attendus à cette 16e édition, lors de laquelle ils sillonneront la belle région de Lanaudière dans le but d'amasser des fonds pour le camp Papillon. C'est quoi le camp Papillon? C'est un événement, pas le camp Papillon, mais ce défi vélo, c'est un événement caritatif qui est essentiel pour le camp Papillon, puisque les sommes amassées permettent d'offrir aux jeunes en situation de handicap la possibilité de vivre un séjour inoubliable dans un camp de vacances adapté où leur handicap n'est pas un frein. Alors, vous pouvez aller sur le site du défi Vélo Papillon Arnois Énergie pour vous inscrire, faire des dons, etc. Partie de plaisir. J'y reviendrai sûrement pendant les prochaines semaines. Ça va se passer à la fin du mois d'août. On fait une petite pause. On revient avec des questions de technologie et on parle aussi de l'Association québécoise des parents d'enfants handicapés visuels.
Vous écoutez Au quotidien, 5e édition, avec Francine Forget et Yvan Deslauriers.
Qui, elle, cette émission est vraiment très sérieuse.
Ah oui, beaucoup, beaucoup.
Malgré ce que Mathieu pourrait en dire, sûrement.
Oui, c'est sérieux, mais ça se fait quand même dans la bonne humeur.
Oui, beaucoup, beaucoup.
Oui.
Et j'ai hâte de voir où vous allez placer la bonne humeur dans votre prochain segment, Francine, où vous allez nous parler de... D'abord, est-ce qu'on commence par Facebook, qui demeure attractif, malgré ce qu'on peut en dire?
J'avais le goût de vous en parler parce que le week-end dernier, il y a eu plusieurs écrans, je pense que c'est dimanche, dans la presse plus, où on parlait de l'émergence de toutes sortes de médias sociaux. Il y en a toujours, à toutes les semaines, je pense qu'il y en a un qui est créé. Et pour certains, on dit toujours « Ah, celui-là va remplacer un tel ou un tel ». Et depuis quelques années, il y a comme une espèce de rumeur, qui parfois n'est pas une rumeur, mais qui souvent l'est, c'est que Facebook, là, c'est en train de s'éteindre. Voilà, ça fait son temps. Il y a juste des vieux là-dessus.
Oui,
on entend ça souvent, parce qu'il y a du monde de marketing à un moment donné qui dit non, mais pas Facebook, là, parce que le groupe cible, c'est 45 et plus. Voilà. Et je dois vous dire qu'en même temps que je lisais ça, je venais de prendre connaissance d'un texte qui a été publié sur citron.net, qui est une bonne référence en matière de technologie. C'est une référence européenne, française, qui disait, le titre est le suivant, « Tel le phénix, Facebook renaît de ses cendres ». Alors, Facebook est redevenu très attractif pour les internautes comme chez les créateurs de contenu. Alors attention, M. Zuckerberg, là, il dit, il y a toujours le dernier mot, c'est ça qu'il faut se dire. Ce matin, dans les journaux, là, on parlait de son intelligence artificielle, ben pas la sienne, mais la sienne en même temps, celle de son entreprise. Et bon, là, tout le monde essaie d'avoir sa part de la tarte ou du gâteau, comme vous voulez. Et lui, ben, il a donné son code source, là. Je veux dire, on peut utiliser son code source, puis à ce moment-là, donc, vraiment se servir de l'intelligence artificielle pour des entreprises, pour des chercheurs, et non pas l'utiliser uniquement en tant que consommateur. Alors, si vous lirez l'écran dans la presse plus de ce matin, ben là, il y a Google et autres qui disent, ben oui, mais c'est pas correct, on perd le contrôle, et puis les questions d'éthique et tout ça, comme si on se préoccupait beaucoup de ça dans les milieux d'affaires technologiques. Je ferme la parenthèse, mais donc, il ne dit jamais son dernier mot. Alors, dans cet article, on apprend que Facebook gagne en popularité chez les vidéastes et que la plateforme a même devancé un de ses petits frères ou une de ses petites sœurs, Instagram. Oui, c'est ça. Alors, il est loin de la fin. La montée puissante des formats de vidéos courtes qui sont de plus en plus populaires sur Facebook et le fait que ça puisse se monétiser, c'est très important pour les créateurs de contenu. Donc, ça fait que la plateforme continue d'attirer environ presque 2,1 milliards d'utilisateurs actifs. C'est le chiffre uniquement pour avril 2023.
Ça, c'est les utilisateurs actifs?
Actifs, voilà. Voilà. Ouais. Alors,
on est loin du déclin quand même?
Ben, on est loin du déclin, effectivement. Et en plus, il y a un sondage qui a été fait par une firme qui s'appelle Marketing Factory auprès de 660 influenceurs qui sont souvent en même temps des marketeurs basés aux États-Unis. Et les analystes, ben, ils considèrent comme Facebook comme une de leurs applications préférées. Et c'est même en croissance si on regarde, par exemple, la situation l'année dernière. Un autre chiffre de cette étude-là, les influenceurs estiment que Facebook, c'est l'endroit où ils gagnent le plus d'argent. Donc, c'est-à-dire que quand ils font de la promotion pour leurs clients, c'est effectivement un bon placement média pour avoir les redevances escomptées. Donc, Facebook redevient-il attrayant? La question, c'est sûr qu'elle mérite d'être, je dirais, répondue à tous les mois ou presque parce que ça change beaucoup dans ce milieu-là. Mais c'est sûr que la conclusion de tout ça, c'est que l'intégration des Reels, là, qu'on appelle, qui sont les courtes vidéos, où on peut allier toutes sortes d'affaires, hein, des photos, des vidéos, des textes, la musique, l'animation, c'est très, très populaire. Et ça ressemble un peu à ce qu'il y a sur TikTok, mais TikTok n'a pas la même portée, c'est sûr, que Facebook. Alors, ceux qui voient la fin de Facebook, ben vous allez être obligés de la remettre parce que... Ça ne sera pas demain la veille. C'est comme si on souhaitait la fin de Facebook et puis de Twitter. De Twitter, ça a été la même chose. Ouais. Twitter, il y a plein de gens qui sont partis. Mais là, ça revient tranquillement. À un moment donné, c'est pas facile de remplacer ces monstres des médias sociaux. Il y a une coutume, il y a une habitude. Ils ont créé leur créneau. Et voilà.
Oui, puis moi, c'est les liens sont créés avec plein de personnes. Je pense que ça me manquerait beaucoup.
Ben, c'est que c'est faut rebâtir son réseau.
Oui.
Faut rebâtir son réseau. Et c'est ce qui s'est passé avec Twitter. Ceux qui émigraient vers autre chose, ben là, ils se sont rendus compte, ouais, mais là, comment je fais pour aller chercher ceux qui me suivaient? C'est une question. Faut recommencer. Pour commencer.
Qu'est-ce que vous avez fait, vous, en début de semaine?
Oui, c'est ça. J'ai participé, en fait, j'ai assisté à une conférence qui avait lieu sur l'intelligence artificielle et l'enseignement supérieur. C'était organisé, entre autres, par le ministère de l'enseignement supérieur. Alors, il y a près de 1000 personnes qui se sont soit réunies dans un hôtel montréalais ou qui, comme moi, l'ont fait à distance par le biais de la plateforme Zoom. Et ça portait beaucoup sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'enseignement supérieur. Et c'était extrêmement intéressant parce qu'on aurait pu, prendre ça en disant « ben là, ça fait peur, qu'est-ce qu'on va faire et tout ça ». Et oui, on le fait, mais à partir d'exemples concrets. Et en quelque part, il y a quelque chose de rassurant. Parce que moi, ce que j'ai retenu de ça, c'est que oui, on parle beaucoup de l'IA depuis l'automne dernier, à cause de ChatGPT. Mais ce n'est pas nouveau. On le sait, ça fait longtemps que ça existe. Et il y a beaucoup d'expérimentations qui se font présentement en enseignement supérieur. Et la grande, grande, grande préoccupation dans toutes ces expérimentations-là, c'est de montrer que c'est un outil qui comporte ses avantages, ses inconvénients, et que l'utilisation doit être faite de façon éthique. Et ça, je vais vous dire, c'est vraiment intéressant de voir ce que des enseignants font avec leurs étudiants en matière de recherche, par exemple, les exemples qu'ils ont mis sur la table, les exercices qu'ils ont proposés pour arriver à leur fin, c'est-à-dire de montrer que, justement, cette utilisation-là comporte une très, très grande responsabilisation. C'est à suivre.
Et on va le faire.
Si tu ouvres les yeux, yeux, juste pour voir un peu devant toi. Le ciel orange et bleu, la lumière à travers les lilas. Oui, je sais. Pour toi l'or et le vermeil couleraient dans les ruisseaux, comme tes yeux dans le ciel te feraient le monde beau. Le monde beau. Si tu ouvrais les yeux juste pour voir un peu devant toi.
C'était Vanille qui chantait la chanson Suivre le soleil.
C'est une excellente idée. Et je parle avec Hilaric Normandeau, qui est le directeur général de l'Association québécoise des parents d'enfants handicapés visuels, l'ACPEV. Est-ce que c'est comme ça que vous le prononcez, Monsieur Normandeau?
Tout à fait. Bonjour, bon matin.
Bonjour.
Merci de me recevoir pour une troisième fois.
Oh, mais on ne se tente pas. De toute façon, vous allez prendre des vacances de nous, hein, je pense, après notre conversation.
J'ai des vacances cet été, donc je vous retrouve en septembre.
En septembre. Est-ce que vous êtes une grosse association?
On est une association qui a un peu plus de 200 parents.
Oui, mais je veux dire en termes de gestion?
En termes de gestion, on a 3 employés à la permanence.
Oui.
Et donc, c'est y a moi qui est à la direction générale qui fait beaucoup des tâches administratives. J'ai également une adjointe administrative et comptable. Et on a une intervenante à temps plein dont le rôle, c'est d'aider les familles. Donc, moi, j'organise les événements et notre intervenante, elle, est en contact puis elle assiste nos parents. C'est vraiment un rôle important de soutien et d'assistance dans notre organisation quand les parents ont des difficultés, que ce soit dans le milieu de l'éducation, dans le milieu de la santé, avec des problèmes en termes d'intégration sur le plan des loisirs. Ben, c'est notre super intervenante Geneviève qui, dans ces occasions-là, donne un coup de main aux familles, participe aux rencontres quand les parents nous demandent de les accompagner dans les rencontres. Donc, on est parfois autour de la table à l'école ou dans le système de la santé pour assister les parents qui ont des questions puis qui ont besoin d'avoir une présence de confiance à leur côté qui est là pour les guider puis les accompagner.
Donc, l'organisation d'une rencontre familiale et d'une assemblée générale annuelle des membres, c'est majeur pour votre organisation.
Oui, c'est le plus gros événement de l'année. Donc, on a ça qui s'en vient la fin de semaine prochaine, les 27 et 28 mai. On est dans la région de Trois-Rivières. On se promène d'année en année, d'une région à l'autre. L'année dernière, on était à Magog. Et donc, cette année, on sera dans la région de Trois-Rivières. Et donc, c'est une formule un petit peu différente des années précédentes, parce que dans les années précédentes, le focus était vraiment mis sur l'Assemblée générale. Mais cette année, on a décidé d'ajouter, en plus de l'Assemblée générale, 3 grandes nouveautés. Premièrement, on a décidé d'ajouter deux conférences. Donc, il y aura une conférence de trois personnes de l'INCA qui aura lieu samedi à 10h30 le matin et qui vont venir nous parler, ces trois personnes qui sont aveugles et qui vont venir jaser avec nos parents de différents aspects de l'intégration là, quand des jeunes arrivent à l'adolescence et à l'âge adulte, l'intégration dans la société quand on est aveugle ou quand on est en basse vision. Alors, c'est des jeunes qui l'ont vécu, c'est des jeunes adultes là, dans la vingtaine et au début trentaine, qui l'ont vécu quand même il n'y a pas trop longtemps et qui vont venir expliquer à nos parents de différents aspects. À la fin, la deuxième partie de cette conférence-là, ce sera une table ronde où les parents auront la chance de jaser avec nos conférenciers et conférencières. Et par la suite, bien, une des choses qui est très importante dans nos événements, c'est qu'on accorde beaucoup de temps pour que les parents puissent discuter entre eux. Donc, on fait toujours des périodes de repas qui sont assez longues pour permettre aux parents de s'asseoir avec d'autres parents et de jaser à la bonne franquette des situations qu'ils vivent. Hein, parce que vous savez, quand votre enfant est dans l'ordre de 1 sur 200 000 ou de 1 sur 500 000 pour une maladie particulière ou une dégénérescence ou un syndrome particulier, ben ces autres parents-là, de ces quelques enfants-là dans la société, vous les croisez pas à tous les jours. C'est très rare d'avoir l'opportunité de pouvoir vous asseoir avec d'autres parents qui vivent la même chose que vous et dont les enfants ont potentiellement les mêmes syndromes que ceux de vos enfants. Alors, c'est une opportunité assez exceptionnelle qu'on offre aux parents à chacun de nos événements de pouvoir discuter entre eux de comment ils vivent certains aspects de la situation de déficience de leurs enfants.
Et pendant ce temps-là, donc, vous faites quoi avec les enfants? Je le sais, mais j'aimerais ça que vous le disiez.
J'allais vous parler, bon, après ça, c'est la GA, mais j'allais vous parler, effectivement, c'était notre autre nouveauté de cette année. Notre mission, c'est vraiment aussi d'occuper les enfants puis de leur faire vivre des expériences exceptionnelles à chaque fois qu'ils viennent avec nous. Donc, cette année, par exemple, on a eu de la glissade sur tube, on a eu Educazoo, on a eu l'Electrium, on a eu le camp Massawippi au mois de mai l'année dernière. Donc, on leur fait vivre plein de belles expériences avec des ratios d'accompagnement qui sont généralement de l'ordre de 1 pour 1 ou 1 pour 2 ou 1 pour 3, dépendant des difficultés liées à la déficience en question. Et donc, merci d'ailleurs à la Fondation des aveugles du Québec qui est souvent à nos côtés pour nous aider dans l'accompagnement de ces jeunes-là.
Ils sont fins.
Et les scouts, oui, ils sont fins. Puis les scouts aussi, dans la dernière année, nous ont donné un fier coup de main en nous fournissant des animateurs et des animatrices scouts qui viennent, eux, s'occuper des enfants qui sont les frères et les sœurs de nos enfants qui ont une déficience visuelle. Donc, ça permet d'avoir un meilleur soutien quand nos 50, 60, 70 enfants sont avec nous dans des activités. Évidemment, c'est pas tous les jeunes qui viennent à toutes les activités, mais des activités où on a 60, 70 enfants à accompagner, dont plus de la moitié vont avoir une déficience visuelle ou vont être aveugles, ben ça demande une très grosse organisation. Et là, ce qu'on va faire les 27-28 mai, c'est une première pour l'association en 43 ans d'existence, c'est qu'on va les amener faire un coucher à un endroit différent de leurs parents. Donc, nos ratios vont être très bons pour cette situation toute nouvelle pour nous. On s'en va au domaine scout de Saint-Louis-de-France, dans la région de Trois-Rivières,
oui.
Où ils vont pouvoir faire tout plein de belles activités, escalade, tir à l'arc, etc., avec un très bon encadrement. Et on va les garder à coucher. Donc, on va faire un beau grand feu de camp avec des chansons dans la soirée. Et puis, ils vont dormir sur place. Et le dimanche matin, ils vont pouvoir faire des activités également. Et donc, ça, c'est une première pour nous. Habituellement, les enfants font faire des activités et reviennent rejoindre les parents sur l'heure du souper ou en soirée. On n'a jamais tenté cette nouvelle formule-là. Alors, on a bien hâte de voir ce que ça va donner.
Ils vont avoir beaucoup de choses à raconter, c'est sûr. Vous m'avez fait un petit peu peur. Des enfants qui sont malvoyants ou non-voyants qui font du tir à l'arc?
Oui, bien sûr. Vous savez, il y a... Les gens ont souvent ce préjugé-là de dire « Ah, mais non, mais ça, on peut pas faire ça. Mais vous savez, c'est pas qu'on va aller mettre quelqu'un devant la cible qui va crier « la cible est ici ».
Ou une pomme.
Habituellement, pour le tir à l'arc, ce qu'on met comme méthode, c'est que le guide, l'accompagnateur, se met derrière la personne et va avoir les mains sur les épaules pour bien guider dans la bonne direction. C'est un peu le pendant du tandem. Hein? Quand on fait du vélo avec une personne aveugle sur un tandem, ben, la personne qui est voyante va guider, va diriger le guidon et l'autre personne qui est derrière participe quand même pleinement à l'activité. Ben, c'est un peu ça aussi avec le tir à l'arc. On a quelqu'un qui est derrière et qui guide la personne non-voyante ou avec une basse vision pour s'assurer qu'on vise dans la bonne direction.
Fantastique. Alors, ça se passe samedi et dimanche de la semaine prochaine, le 27 et le 28 mai. C'est à l'hôtel Gouverneur Trois-Rivières. C'est la 43e rencontre familiale et assemblée générale annuelle des membres. Est-ce que les gens peuvent encore s'inscrire? Est-ce qu'il est trop tard?
Écoutez, il faudrait vraiment, si les gens souhaitent devenir membres de l'association, qui nous contacte rapidement en début de semaine, nous laisse un message lundi, parce que vous savez, lundi, on est en congé, mais on va les rappeler mardi matin très tôt, parce qu'on est vraiment là, dans les dernières journées où on a la capacité de faire de l'hébergement. Mais il n'est jamais trop tard pour devenir membre de notre association. Et si c'est pas pour participer aux activités du 27 et 28, ben ça sera pour participer aux journées d'échange de novembre prochain, de janvier prochain, de mars prochain ou à l'Assemblée générale annuelle puis à la rencontre annuelle de l'année prochaine dans le pire des cas.
Mais ça, on aura la chance de s'en reparler après vos vacances d'été. Donc, merci beaucoup, M. Normandeau, de nous avoir décrit cette activité-là et on se reparle en septembre.
Merci à vous puis bon été.
Merci.
Vous aussi. Oui.
On va commencer ça, le dernier bout de l'émission. Et comme j'ai promis à Francine de lui laisser le micro le plus souvent possible, c'est encore le cas. Qu'est-ce que vous allez surveiller en fin de semaine?
En fin de semaine, je vais surveiller le jour 24 ou 23, 22, 21 avant Mural. Mural, c'est cette exposition qui se tient en plein air à Montréal sur la rue Saint-Laurent, qui en est à sa 11e édition et qui se tiendra cette année du 8 au 18 juin. Je vous en parle parce qu'il y a deux événements importants qui sont liés à Mural. Le premier, c'est la grande corvée du boulevard Saint-Laurent. Donc, dimanche, le 21 mai, alors on annonce un peu de pluie samedi, dimanche matin, ça va s'éclaircir tranquillement, et après ça, il va faire beau. Alors, on fait le grand nettoyage sur la rue Saint-Laurent. Alors, on se prépare, d'une certaine façon, à ce qui s'en vient. Alors, si vous voulez participer à cette grande corvée de nettoyage, vous allez sur montréal.ca, et dans la section « Corvée de propreté ». Et vous allez voir que ça se passe souvent dans différents arrondissements, mais cette fois, c'est pour Montréal et ça a un petit lien avec Mural. Toujours avec Mural, il y a un artiste, un très grand muraliste portugais qui va être présent dans cette prochaine édition qui s'appelle « Bordalo 2 ». Et Bordalo 2, il va faire une sculpture. Une installation de très grande taille à partir d'objets réutilisés. Et présentement, il est à la recherche de ces objets. Alors dimanche, si vous en avez, et quand je dis vous en avez, je vais vous inviter à aller sur le site drive.google.com et vous allez voir tout ce que vous pouvez apporter, mais je vous donne quelques exemples. Mm-hmm. Des tuyaux usagés, des cases de construction, des pare-chocs, des réservoirs de carburant, des pneus de vélo usagés.
Ah, ça, j'ai peut-être
Peut-être. Des paniers d'épicerie, des cônes oranges, etc. Et ça doit être déposé à ce qu'on appelle le quai de chargement pour Mural. Et c'est sur la rue Clark. C'est au 4221 Clark. Alors, vous pouvez aller déposer ces objets dimanche 21 et en même temps donner un petit coup de main pour nettoyer la rue Saint-Laurent.
Mais ce pas des choses qu'on a facilement dans nos garages ou dans, en dessous
mais
de la galerie.
Pas, mais des fois, vous n'avez pas fait le ménage encore.
Oui, je suis sûr que j'ai pas de pare-choc qui traîne.
Non, bon. Deuxième chose, rapidement, le jardin botanique, ben je ne sais pas si vous aimez...
Je suis allé dimanche.
Vous êtes allé dimanche.
C'était la fête des mamans.
Oui, alors vous savez, bon, le jardin botanique est ouvert, c'est sûr, sur le 4101 Sherbrooke-Est, mais sur le site, vous pouvez suivre, je dirais, l'état de floraison.
Oui, hein, c'est vrai.
C'est ça. Alors là, c'est les magnolias, c'est les pommetiers, c'est les tulipes, les rhododendrons. Alors, pourquoi pas aller faire un petit tour pendant ce long week-end? Et si vous trouvez que samedi, c'est trop pluvieux, vous n'y alliez pas, mais vous allez avoir d'autres jours pour voir.
Chez lundi.
Voilà.
Puis, si vous voulez aller faire une plus longue promenade, ouais. Vous allez du côté d'Ottawa, où j'ai vécu pendant quelques années. Et la ville est resplendissante à ce moment-ci de l'année.
Voilà, c'était mes suggestions pour le prochain week-end.
Voilà. De mon côté... Là, ceux qui nous écoutent, là, préparez-vous, buvez votre café rapidement, peignez-vous, etc. Parce que Alexandra Striliski sera dehors à la Place des Arts. Elle jouera gratuitement près de l'esplanade de la Place des Arts ce midi, vendredi midi. Son identité a été dévoilée hier, environ 24 heures après que la Place des Arts eut annoncé une prestation surprise. Alexandra Striliski jouera une quinzaine de minutes. C'est pour ça que je vous dis, préparez-vous vite.
Il ne faut pas arriver en retard.
Non,
hein?
Si on arrive en retard, il y a plein de choses dans ce coin-là, mais ça ne sera pas Alexandra Striliski. Donc, cette courte performance vise à attirer l'attention sur un concert intitulé « Dans les bois » qu'elle présentera les 24, 25 et 26 août à l'amphithéâtre Fernand Lindsay à Joliette. La pianiste et compositrice qui a récemment signé un contrat avec la multinationale Sony entreprend samedi à Ottawa, avec les tulipes, une tournée qui l'amènera partout au Québec, mais aussi à Los Angeles le 25 mai, si vous êtes dans le coin, et à Brooklyn le 27 mai, toujours, si vous êtes dans le coin. Il y a toujours dans la presse, dans la section Arts et Lettres, on apprend aussi que la sortie de Yannick Nézet-Séguin fait boule de neige. L'Orchestre symphonique de Philadelphie met en vente dans sa boutique, je ne sais pas s'il y a une boutique électronique, là, ça vaudrait la peine d'aller voir, des sacs fourre-tout et des T-shirts qui représentent la sortie exaspérée de Yannick Nézet-Séguin contre les cellulaires dans la salle de concert. Les nouveaux sacs et T-shirts et même des étuis de téléphone cellulaire portent l'inscription en anglais. Peut-on vivre sans fichu cellulaire pendant une heure? Et je termine mes choses à surveiller en fin de semaine parce que ça va être un long week-end et je suis allé chercher mes fleurs cette semaine. Alors, moi, quelque part, après la pluie, on va planter des fleurs.
Ah, c'est un week-end généralement où les gens s'adonnent beaucoup à cette activité. Et pourquoi pas le faire aussi en même temps qu'il y a la pluie? Hein? Vous savez, c'est très, très bon.
Ah oui, puis c'est plus facile ouais, de travailler
oui.
La
oui.
Terre à ce moment-là. Pas besoin d'arroser par la suite. Donc, nous, ça va être une des activités à faire. Moi, je me prépare aussi pour un défi vélo qui aura lieu samedi de la semaine prochaine pour... aller chercher de l'argent pour la recherche contre le cancer du myélome multiple. Et ça va se passer dans les cantons d'Est. Alors, après la pluie et les fleurs, il y aura du vélo.
Vous allez avoir le temps d'en reparler la semaine prochaine. C'est
oui.
Ce que je comprends.
Oui, je vais placer ça quelque part.
Alors, c'est rendu à la fin. Comme d'habitude.
Oui,
hein?
oui.
C'est ça.
Et vous allez me manquer la semaine prochaine.
Bien, c'est sûr. Et les auditeurs vont me manquer aussi, ainsi que vous-même et Mathieu, évidemment. On vous remercie d'avoir été
Je
encore une
c'est
fois
c'est pour ça que Mathieu vous a laissé une photo ce matin.
Oui, c'est ça, exactement. Exactement. Ah. Je l'ai numérisé, alors je lui ai remis. Vous allez pouvoir... J'ai remis la photo, donc vous allez pouvoir la voir vous aussi, pour ne pas faire de jaloux.
Bien sûr.
Alors, merci tout le monde. Et moi, je vous retrouve dans deux semaines, effectivement.
Et moi, je vous fais le rendez-vous de nous rencontrer vendredi prochain, 9h30. Au Canal M, à l'émission Au quotidien, 5e édition.
Vous êtes dans le Nous Royal, vous, là.
Oui, c'est ça.
Vous finissez ça là-dessus.
Voilà.
Vous pouvez rejoindre les